Témoin aujourd'hui avec le frère Xavier Habig, petit frère de l'évangile de Charles de Foucault. Frère, cela fait 31 ans que vous êtes à Beni Abbès, dans le Sahara algérien.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Pourquoi être parti vers ce monde musulman?
C'est mes frères qui m'ont proposé d'y aller et j'ai accepté très volontiers. Ils m'avaient d'abord proposé d'aller apprendre l'arabe. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, de 73 à 75, à Beyrouth, au Liban. Et ensuite, ils m'ont proposé d'aller à Beni Abbès. Et j'y suis depuis août 1976. Donc je suis là-bas, envoyé par mes frères.
Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un enfouissement d'être là-bas à Beni Abbès?
Oui, c'est vrai, c'est un enfouissement. Les jours se ressemblent. Dans le désert, on ne peut pas prétendre faire des choses extraordinaires. On cherche plutôt à épouser le relief, à ne pas donner prise au vent pour ne pas être déraciné. Donc les jours se ressemblent et c'est vrai qu'il y a un côté enfouissement dans notre vie.
Comment sont rythmées ces vies? Travail, prière?
Oui, le matin, nous nous levons, nous prions, et puis ensuite la journée se déroule selon un rythme de travail, de prière, et puis aussi les relations avec nos voisins sont extrêmement importantes.
Alors on en reparlera tout à l'heure de ces relations, mais votre travail consiste en quoi?
Alors j'ai deux frères dont l'un est pratiquement Henri, paysan à temps plein au jardin. L'autre, Bernard, passe beaucoup de temps au jardin lui aussi. Étant nouveau à Beni Abbès, il consacre beaucoup de temps à l'apprentissage de l'arabe. Moi, je touche un peu à tout. Quand il y a des demandes, je me rends disponible pour enseigner l'arabe. Par exemple, il y a un prêtre de Lyon qui est venu dans le diocèse de Constantine, qui est resté 2-3 mois avec moi. Et là, à temps presque plein, je suis professeur d'arabe. Il m'est arrivé d'avoir plusieurs périodes comme ça.
Avant de reparler de votre relation avec le monde de l'islam, on va revenir quand même, frère, sur votre vocation, les origines. Vous êtes de Saint-Étienne.
Oui, je suis né à Tizi, à côté de Rouen. Ensuite,
dans la Loire, c'est un petit peu loin de Saint-Étienne.
Oui. On a d'abord vécu à Saint-Victor-sur-Rhin, c'est un petit village à côté de Rouen. Ensuite, papa est monté à Rioter, on a vécu là-bas 8 ans, je crois. Et puis, nous sommes descendus à Saint-Étienne après le décès de papa en 68.
Vous aviez quel âge?
68, j'avais donc 20-21 ans.
Et cette vocation de frère s'est enracinée comment, à quel moment? Vous êtes issu d'une famille profondément croyante?
Oui. Ma vocation religieuse, elle est de toujours. Maman m'a dit que dès que j'ai parlé de mon avenir, de ce que je ferais, je pensais à ça, missionnaire, frère, prêtre, enfin, ça a toujours été. Maintenant, pour choisir, quand le moment est venu de choisir, quand j'ai eu 20, 21 ans, alors là, bon, il y a un discernement qui s'est fait, mais la vocation elle-même, j'ai l'impression d'être de toujours.
Pourquoi petit frère de l'évangile de Charles de Foucault? Charles de Foucault est quelqu'un qui vous a séduit très jeune ou alors vous l'avez découvert un peu plus tard?
Je l'ai découvert plus tard. Ce qui m'a attiré à la fraternité, ce n'est pas Charles de Foucault en tant que tel, c'est lorsque je suis arrivé dans une communauté de Charles de Foucault, étant en recherche d'une communauté religieuse, je me suis tout de suite trouvé comme chez moi, dans ma famille, et je n'ai pas réfléchi plus loin, j'y suis encore.
Et qu'est-ce qui vous a séduit?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. La prière. Charles de Foucault rêvait que ses frères vivent dans la familiarité permanente de Jésus. La vie fraternelle. Il voyait ses frères vivant comme des frères dans la maison de Nazareth, entre Marie et Joseph, polarisés par Jésus. Et également le partage de la vie des pauvres. Je pense que ce sont les trois choses qui, sans que je le sache, m'ont séduit.
Et à partir du moment où vous avez su où vous étiez attendu, certainement, comment s'est passé votre engagement?
Alors ça s'est passé de façon très simple. J'avais fait une licence de lettres, j'étais enseignant au Collège Saint-Michel à Saint-Étienne. Et donc je me disais, bon, je veux devenir prêtre, religieux, je ne sais pas quoi. Donc il faut que je voie où je rentre. Alors j'ai été voir chez les jésuites, chez les dominicains, j'ai trouvé que c'était très bien. Enfin bon, très bien sans plus. Et un beau jour, je suis arrivé dans une communauté de petits frères de l'évangile. Et là, comme je vous dis, je me suis tout de suite senti dans ma famille.
Frère plutôt que prêtre, c'était
alors,
important pour vous?
Non, nous sommes religieux. Ensuite, si le besoin s'en fait sentir, certains de nous sont ordonnés. Mais notre identité, c'est d'être religieux.
dans votre cœur, cela veut dire quoi ?
Religieux, bon, au début, c'était consacrer ma vie à Jésus, et ça l'est toujours. Maintenant que je mets un peu de réflexion, de théologie là-dessus, je découvre de plus en plus que la vie religieuse n'a aucune spécificité par rapport au baptême. La vie religieuse, c'est le baptême, point. À tel point que je découvre que c'est le mariage qui est spécifique par rapport au baptême. Preuve en est que quelqu'un qui veut vivre sa vie en couple a un autre sacrement en plus du baptême pour vivre cet élément nouveau qui se greffe sur son baptême, qui est un amour humain avec une personne de l'autre sexe. Tandis que la vie religieuse, il n'y a aucune spécificité, c'est le baptême, un point, c'est tout.
Frère, vous êtes un religieux, un homme, épris de l'Évangile, épris du Christ, bien sûr.
Oui, j'essaye de l'être. Je demande à Jésus de me laisser faire chaque jour. Oui.
Vous me disiez juste avant de démarrer l'émission à quel point c'était important l'Évangile, la parole de Dieu pour vous.
La parole de Dieu, oui, mais la personne de Jésus. Alors bon, cette personne de Jésus, elle parle, elle monte sur la montagne, elle dit des choses, elle mange chez Simon le lépreux, etc., etc. Ça n'est pas la parole, c'est la personne de Jésus. Ce Jésus, il parle, il agit et il vit aujourd'hui, oui.
Quelqu'un de vivant, présent dans votre vie aujourd'hui et présent aussi dans le cœur des personnes que vous rencontrez.
C'est ceux qui me permettent de les rencontrer. À Béni Abbès, quand quelqu'un frappe à la porte, quand je vais à la porte, je dis « Voyons, quel visage tu vas avoir maintenant quand je vais ouvrir cette porte ?»
Vous choisissez cette vocation de frère. Alors je rappelle, petit frère de l'Évangile de Charles de Foucault, vous entrez dans la congrégation, il y a un temps de préparation, un temps de formation. Et que se passe-t-il après ?
Alors après le noviciat, eh bien, j'ai fait des études. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, mes frères m'ont proposé d'aller à Béni Abbès.
Très vite ?
Non, oula, j'ai fait des études de théologie, j'ai fait des études de langue. Ça a été un peu long et un petit peu éprouvant. Mais enfin bon, chacun est éprouvé d'un côté ou de l'autre. Donc.
C'est important quand on est tout donné au Seigneur, quand on est tout donné à Dieu, de faire des études, d'apprendre des langues. Bon là, l'arabe, on comprend. Mais est-ce que c'est très important de faire des études de théologie ?
Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'Église et mes frères me disent « va faire des études », je leur fais confiance et je vais faire des études. Maintenant, je me rends compte que certainement ça a été important, même si, dans un premier temps, quand je vois vraiment les choses qui nourrissent ma foi, les intuitions que j'appellerais un peu théologiques en employant un grand mot, mais qui sont des choses extrêmement concrètes, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, mes professeurs de théologie, mes docteurs, sont les petits-enfants des voisins. Ce sont eux, par leur comportement, par des choses extrêmement concrètes, en les voyant, je me suis dit, ah, mais l'Eucharistie, mais c'est ça, mais évangéliser, mais c'est ça. Des comportements très très concrets auxquels je pense encore maintenant que j'ai vu chez des enfants.
C'est avec un grand plaisir que dans cette émission, nous retrouvons le frère Xavier Habig, petit frère de l'Évangile de Charles de Foucault. Cela fait, frère, 31 ans que vous êtes à Béni Abbès, dans le Sahara algérien.
Oui.
Après avoir fait des études, après avoir appris des langues, plus particulièrement encore l'arabe que vous avez appris au Liban.
Oui.
Vous êtes originaire de la Loire, du côté de Roanne. Frère, À l'instant, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de l'importance de l'évangélisation. Et ce chant à l'Esprit Saint nous rappelle aussi qu'on n'évangélise pas seul. On évangélise parce que quelqu'un vient probablement et très certainement nous habiter.
Tout à fait, oui. On évangélise parce qu'on a une joie, j'allais dire insupportable, au fond du cœur. Et que cette joie qui est là, on ne peut pas ne pas la partager. C'est tout simple, comme dit Saint Jean. Ceci, je vous le dis, pour que ma joie soit complète et pour que la joie qui est la mienne soit aussi la vôtre. Et c'est ça que je vous disais en disant, je l'ai découvert dans le comportement des enfants. Les enfants, spontanément, un enfant qui vous aime ou une personne qui vous aime vous fait partager ce qui est sa joie. « Oh, devine ce qui m'est arrivé, il y a ça, ça et ça, il y a... » Et ben voilà. L'évangélisation, c'est tout bête, c'est ça. Rien de plus et rien de moins. « Devine, il y a Jésus, Dieu nous a envoyé son Fils, il a... regarde ce qu'il a fait, c'est incroyable. » C'est rien de plus et rien de moins.
Vous arrivez là-bas à parler du Christ avec vos voisins. Y a-t-il des chrétiens ou est-ce particulièrement des musulmans, ceux que vous appelez vos voisins ?
Je ne parle jamais du Christ avec mes voisins, jamais. Je n'ai eu de questions là-dessus. Les voisins que j'ai là-bas, ce que nous vivons, c'est notre commune foi en Dieu, qui est une réalité tellement, j'allais dire, aveuglante et simple, qu'on vit comme ça, on est frères et sœurs, on se sent frères et sœurs dans cette commune foi en Dieu.
Vraiment dans le respect des différences.
Bon, ils savent que je suis chrétien, mais ce qui est perçu, on vit, on est des voisins, on est des amis, on croit en Dieu, et voilà, tout est dit. Le questionnement vient avec des gens qui ne nous connaissent pas, par exemple, des gens qui viennent visiter, donc des musulmans qui arrivent du nord de l'Algérie ou de d'autres villes, alors qui arrivent, qui nous rencontrent, alors eux, oui, ils sont dans la chapelle, ils voient la Bible en arabe, alors nous posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Bible. Ah oui, et toi, est-ce que tu as lu le Coran? Qu'est-ce que tu penses? Et les chrétiens, comment vous priez? Pourquoi t'es pas musulman? Enfin voilà. Alors là, oui, il y a une discussion souvent forte. L'indifférence est complètement exclue. Il n'y a pas d'indifférence là.
Une façon de mieux se connaître, frère, en apprenant l'arabe, est-ce que vous avez eu la soif? Et puis, est-ce qu'on vous a demandé d'ailleurs de lire et d'approfondir vos connaissances du Coran?
On ne m'a pas demandé d'approfondir mes connaissances du Coran. Bon, concrètement, en 31 ans, entre lecture et ce que j'ai entendu à la radio ou à droite et à gauche ou lu, je peux dire que sans doute j'ai lu ou entendu pas mal du Coran et j'ai entendu aussi pas mal de prédications de chiites musulmans, donc je peux dire quand même, oui c'est vrai, je sais ce qu'est le Coran, je sais ce qu'est l'islam.
Et c'est important pour pouvoir peut-être dialoguer plus en profondeur avec ceux qui sont mis sur votre route, on va le dire par le Seigneur, hein, parce que rien n'est neutre.
Difficile pour répondre à cette question. Par exemple, j'ai eu un frère qui était italien, qui a vécu à Beni Abbès pendant 30 ans, il était maçon, un homme de très grande foi, d'une chaleur humaine très 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 forte. Il ne connaissait pas l'arabe, donc son témoignage et sa vie d'amitié avec les gens étaient aussi extrêmement fortes. Ça n'est pas le dialogue au niveau théologique et conceptuel qui porte vraiment du fruit. Bon, il est peut-être nécessaire, mais ce qui porte du fruit, c'est le vivre ensemble.
Être témoin.
C'est ça, oui. Vivre, bon, ben moi je suis chrétien, donc j'essaye de vivre l'évangile. Et puis voilà, donc c'est ça qui parle, c'est cette vie commune, c'est cette amitié commune qui tisse des liens, qui parle.
Dans la simplicité du quotidien.
Exactement.
Voilà, quand vous revenez en France, frère, est-ce que vous avez l'impression d'être totalement en décalage par rapport à ce que vous vivez? On parlait tout à l'heure de l'importance de vivre comme la famille de Nazareth, c'était ce que désirait le frère Charles de Foucault. Et quand vous revenez en France, vous êtes plongé là dans un autre monde.
C'est vrai que je me sens quand même un peu déphasé. À Beni Abbès, nous vivons dans un milieu... Bon, c'est le désert. Le désert simplifie énormément. Il n'y a pas de demi-mesure. Les choses sont tranchées. Il y a la lumière, la nuit, il y a le froid, le chaud. Ce sont des choses extrêmement simples. Et c'est vrai que je suis plus spontanément à l'aise dans ce milieu-là que ici où... Le désert est une chose qui simplifie beaucoup. Et puis il y a quand même de la pauvreté. Et la pauvreté simplifie aussi beaucoup. Jésus promet son royaume aux pauvres. Et c'est vrai que je contemple plus facilement le royaume de Dieu à l'œuvre là-bas que dans une société plus riche matériellement.
Frère, quand vous êtes là-bas, quand vous êtes à Beni Abbès, le rythme de vos journées est le rythme d'une journée de tout homme, de tout ouvrier, de toute personne.
Pas tout à fait, parce que, bon, pour peut-être Henri qui est au jardin, oui, puisque son travail est au jardin, bon, il est là. Quand on est à la maison, quand on essaye de se rendre disponible à l'accueil, souvent on ne maîtrise pas son rythme. Il y a quelqu'un qui débarque, bon, ben, on essaye de l'accueillir. Et celui qui arrive à l'improviste, c'est toujours un enquiquineur d'une certaine façon. On a toujours autre chose à faire qu'à l'accueillir. Donc c'est quand même un dépouillement, enfin, un dépouillement un peu constant.
Il faut une grande disponibilité. Alors qui accueillez-vous là-bas?
Eh ben, celui qui frappe. C'est le voisin, c'est la voisine. Comme je vous le disais aussi, ça peut être quelqu'un qui... Parce qu'en Beni Abbès, c'est touristique, donc un touriste algérien, une famille, un groupe, un car qui vient d'Alger, d'Oran, et puis qui, bon, il y a la piscine, il y a la grande dune, il y a le musée, et puis il y a l'ermitage à Beni Abbès, donc on fait partie du circuit. Donc ils arrivent là, et voilà, on fait visiter l'ermitage et on parle ensemble.
Une vie d'église aussi est possible. Vous rencontrez des chrétiens?
Oui, dans le sud, ce sont uniquement des chrétiens comme moi, donc une majorité de religieux, religieuses et de prêtres qui forment, avec quelques laïcs depuis quelques années, dont le nombre va en croissant. Du fait du manque d'évocation, il y a moins de religieux, il y a moins de prêtres. Donc l'Église fait davantage appel à des laïcs, mais comme permanents dans le diocèse, alors pour un an, pour deux ans, parfois plus.
Donc ça, c'est quelque chose que nous avons en commun avec vous. Ici en France, eh bien, les laïcs prennent de plus en plus aussi leur place.
Là-bas
dans
aussi, oui.
Alors, frère, vous n'êtes pas sans connaître l'actualité. C'est important pour vous de suivre un petit peu ce qui se passe dans votre pays? Ou alors est-ce que vous êtes totalement devenu algérien quelque part? Vous êtes resté français?
Écoutez, je vous avoue à ma grande honte que je suis peu l'actualité et... encore moins l'actualité politique française. J'ai profité d'être ici avec les élections pour faire un bain, puis ça m'a beaucoup intéressé. Mais là, je vous avoue que je suis peu la politique française quand je suis là-bas.
On dit que le désert est un endroit particulier où vous parliez du froid et du chaud. Les nuits sont très froides, mais avec un ciel extraordinairement étoilé. La nature est aussi quelque chose de très porteur pour la prière, pour la réflexion, pour la méditation.
La nature, elle est très désertique, il n'y a rien, hein, c'est sable et pierre.
On dit bien que c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu.
Mais c'est vrai qu'il n'y a rien, il n'y a rien dans le désert. Donc vous voyez quelqu'un qui arrive là-bas, alors évidemment vous ne voyez que ça. Donc toute chose, une fleur ou bien un animal, tiens il y a un chameau là-bas à 100 mètres, à 800 mètres, à 2 km. Donc toute chose acquiert une présence extrêmement simple et extrêmement forte. Vous n'avez pas besoin de commentaires ou d'exégètes qui viennent pour vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez tout de suite le sens des choses. Sur RCF, en compagnie du frère Xavier Habig, petit frère de l'évangile de Charles de Foucault. Frère, vous nous avez tout à l'heure parlé de l'importance de l'Eucharistie, mais on va peut-être parler, à cause de ce chant que nous venons d'entendre, de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est quelqu'un que vous avez découvert très vite, qui vous est proche. Oui, exactement, ça, vous le dites bien, qui m'est proche, plus que moi, je lui suis proche, c'est-à-dire... Il ne m'arrive pas forcément très, très souvent, si je pense souvent à elle, mais chaque fois que je repense à elle, je la découvre comme présente ici, et une présence toute simple, dont je n'ai pas grand-chose à dire, bon, sauf tout ce que m'en dit l'Évangile et tout ce que m'en dit l'Église quand même, tout son mystère. Hein, elle est la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu. Puis il y a, quand on parle de la prière, il y a aussi ce que dit Jésus, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre. Donc ce sont des choses comme un homme et une femme qui s'aiment, ils ferment la porte aussi de la porte de leur chambre, parce que l'amour a besoin d'intimité pour être vécu, et la prière c'est la même chose. Alors à la fois c'est une grande joie d'y penser, et on est un peu démunis pour en parler, parce que ce sont des choses intimes, simples et...
Frère Xavier Habig, petit frère de l'évangile de Charles de Foucault, vous êtes, j'ai envie de dire, entre guillemets, un amoureux de l'Eucharistie. Et vous dites que l'Eucharistie, vous avez découvert sa grandeur il y a longtemps, mais peu à peu, vous entrez encore plus profondément dans ce grand mystère.
Bon, l'Église nous dit que l'Eucharistie, c'est tout le mystère, c'est tout son propre mystère, c'est le Christ. Charles de Foucault l'a dit et vécu. Donc je l'ai pensé avant de le découvrir et de l'expérimenter. Bon, c'est le corps et le sang du Christ, c'est dans le corps et le sang du Christ que nous est donné l'Esprit-Saint. Il y a eu une ou deux étapes. La découverte de ce qu'est l'Eucharistie, je le disais à la fin, ce sont les enfants qui m'ont fait découvrir. Quand je vais visiter une famille où il y a des enfants qui m'aiment bien, qui me connaissent, ils viennent à ma rencontre. « Ah, Xavier, quelle joie, il y a longtemps qu'on t'a pas vu !» Ils crient leur joie de me voir. Faire Eucharistie, dire une action de grâce, c'est crier à son bien-aimé, dire à son bien-aimé, à sa bien-aimée, tu es ma joie, tu es ma lumière, tu es ma source, tu es mon tout, tu es mon désir, tu es... Voilà. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Et dans cet acte de l'Eucharistie, vous devenez quelqu'un d'autre. Hein? Jésus prend le pain, prononce l'action de grâce, et ce pain devient son corps. Le petit enfant se précipite à ma rencontre. Xavier, Xavier! J'étais triste, j'étais mal pris, ma vie fraternelle avec mes frères n'allait pas bien. Dans cet acte de ce petit qui court à ma rencontre en me criant son action de grâce, Xavier, Xavier, quelle joie de te voir, je suis recréé, je deviens autre, et c'est une nouvelle personne qui existe. C'est là, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai découvert que l'Eucharistie, le sacrifice d'action de grâce, c'est vraiment, oui, c'est l'acte par lequel l'Esprit-Saint nous recrée et fait de nous une créature nouvelle, nous incorpore à Jésus.
C'est très évangélique ce que vous dites, frère, puisque c'est Jésus lui-même qui dit que si on ne redevient pas comme un enfant, tel un enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux.
Oui, tout à fait. Oui, cette Eucharistie, c'est... Par exemple, dernièrement, je lisais le Cantique des Cantiques. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Cantique? Vous avez le bien-aimé et la bien-aimée qui vivent leur amour pendant 8 chapitres. C'est tout. Ils s'étreignent pendant 8 chapitres. Et à un moment, j'ai vu, il y a le, je sais pas si c'est le cœur, qui dit aux deux bien-aimés qui sont dans la chambre, qui vivent leur amour dans la chambre, il leur dit, mangez, mes bien-aimés, buvez, enivrez-vous. Hein? Il compare l'amour qu'ils sont en train de vivre, mangez, buvez, hein? Enivrez-vous. C'est l'Eucharistie.
Et en même temps, c'est une recherche constante, parce qu'on le voit bien dans le Cantique des Cantiques, ils se cherchent.
Oui, ils se courent après, ils se recherchent constamment. C'est vrai, ce Jésus, on peut pas, bon, on le désire, il vient de notre compte, on peut pas mettre la main dessus, évidemment, heureusement. Et puis aussi, il est présent dans les autres. Comment puis-je prétendre vivre l'Eucharistie si je n'accueille pas le frère et la sœur qui sont là, qui sont aussi membres de son corps? Alors, l'Eucharistie me relance perpétuellement vers l'autre. Alors évidemment, si on vit ça au niveau du devoir moral, c'est épuisant. Il faut constamment demander au Seigneur la grâce de vivre ça non pas comme un devoir, il faut que, mais comme un élan amoureux, un entraînement, une polarisation, un élan vers le bien-aimé. Quand on s'élance vers le bien-aimé, on n'a pas besoin que ça soit un devoir moral.
Frère, pour terminer l'émission, pour la conclure, il y a beaucoup de bonheur à donner sa vie au Christ totalement, comme ça, vivre sa vie de baptisé, dans la simplicité du quotidien, dans un don total.
Oui, il y a beaucoup de bonheur, et le bonheur présent est immense, c'est vrai, et le bonheur entrevu est indicible. Thank you.